ma puissance même et notre sûreté. Le Seigneur m'a mis à cœur un passage en Deutéronome 33, le verset 3e, avec cette pensée d'être au pied de Jésus, puisque notre impuissance même est notre sûreté. La parole donne de nombreux passages où il est tellement important d'être au pied de Jésus. Deutéronome 33, au verset 3e, oui, il est le peuple. Tous ses saints sont dans ta main et ils se tiennent à tes pieds. Ils reçoivent tes paroles. Quelques pensées sur ce premier passage. Où serions-nous, mes amis, que ferions-nous si nous n'étions pas aimés de notre Dieu? Mais ce Dieu qui est amour, c'est donc sa nature, selon 1 Jean chapitre 4. Mais ce Dieu qui s'est occupé de nous, comme dit le psaume 136, il s'est souvenu de nous. Dans notre bas état, Dieu aime les peuples. C'est une expression toute générale, nous le comprenons. Mais Dieu veuille que chacun ici se sente bien concerné par cet amour de Dieu manifesté dans la personne de Christ. Nous rappelions hier soir ce mot de l'apôtre, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Y aurait-il quelqu'un qui ne puisse pas dire amen à ce passage de Galates 2:20? Y aurait-il quelqu'un qui ne puisse pas dire avec Éphésiens 5, Christ nous a aimés? Et s'est livré lui-même pour nous. Christ a aimé l'assemblée, s'est livré lui-même pour elle. Dieu aime les peuples. Puissons-nous être sensibles à cet amour de notre Dieu, à cet amour du Seigneur. N'oublions pas que nous sommes aimés aujourd'hui même, comme au jour où il a été élevé de la terre sur la croix, au jour où il a donné sa précieuse vie pour chacun de nous. Prenons conscience de cet amour éternel, insondable bien sûr pour nous maintenant, qui connaissons en partie, qui voyons ce que les mondes, mais qui sommes réjouis à la pensée que bientôt, comme dit l'apôtre en 1 Corinthiens 13, nous verrons face à face. Dieu aime les peuples. En chantant ce cantique 63e, qui énumère devant nous quelques-unes des ressources contenues dans le Seigneur, je pensais à cette expression de ce Deutéronome 33, où on l'a dit aussi, Moïse laisse parler son cœur. Il va rappeler dans ce chapitre la grâce de Dieu dans les tribus, ce qu'elle a produit, alors que Jacob, en Genèse 49, soulignait plutôt le côté qui avait été en déshonneur pour Dieu dans les tribus, à part les exceptions que vous savez, bien sûr. Dieu aime les peuples. Il y a une deuxième expression ici, et qui est touchante, tous ces saints sont dans ta main. Oh mes amis, dans les mains de celui qui a appelé toutes choses à l'existence. Il est question des mains de Dieu en Hébreux 1, verset 10. C'est pour nous faire comprendre les choses, les mettre à notre portée, bien sûr. Mais ce passage nous fait penser aux mains qui ont été percées pour chacun de nous à Golgotha. Mais c'est tellement important que le psaume 22, déjà, il y a des siècles, nous donne ce mot. Par la voix prophétique, bien sûr, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et cet autre mot, tu m'as mis dans la poussière de la mort. Et cet autre mot qui est le sommet de la solitude du Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tous ces saints sont dans ta main. Réalisez, mes amis, que nous ne sommes pas laissés à l'aventure, que le Seigneur est là, qu'il est toujours là. Tout cela, nous l'avons rappelé par le cantique. Pour nous brûle son cœur, ce cœur plein de tendresse. Il ne peut pas, il ne veut pas nous laisser à l'aventure. Une sœur me disait, mais je lui ai coûté trop cher. Un grand prix a été payé sur le mont Golgotha. Il faut nous en souvenir. Les mains de Jésus portent une gravure pour le temps et pour toujours à cause de chacun de nous ici. Tous ces saints sont dans ta main. Nous est-il arrivé de méditer en ouvrant nos Bibles et en lisant ce qui est écrit? Nous est-il arrivé de nous arrêter sur les passages où il est question des mains de Jésus? Lisons les évangiles, mes amis, dans le chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, au début du chapitre, un homme souillé par la lèpre s'approche de Jésus, appelle au secours, permettez l'expression. Et c'est là que Jésus répond à sa foi. Jésus le touche. Alors qu'on ne touchait pas un lépreux. Et c'est là que Jésus dit, je veux, sois net. Deux fois seulement, le Seigneur a dit, je veux. Là, dans Matthieu 8, les passages correspondants dans d'autres évangiles, mais dans Jean 17, 24, « Père, je veux, quant à ce que tu m'as donné, le lieu où moi je suis, qu'ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Je veux. » Et dans ce même chapitre 8 de Matthieu, la belle-mère de Pierre a la fièvre, pour ce qui représente, nous le comprenons bien, ce qui caractérise notre monde du XXe siècle. Le Seigneur touche la belle-mère de Pierre, elle est guérie, elle se lève, est-il écrit, et elle le servit. Puissions-nous comprendre aussi nous-mêmes ce que nous devons au Seigneur qui nous a guéris de la blessure mortelle que nous portons tous comme pécheurs perdus loin de lui. Elle se leva et le servit. Dans le chapitre suivant, ce sont des aveugles qui viennent à Jésus. Ils touchent leurs yeux et ils voient. chers amis, ces passages nous parlent de cette grâce souveraine, de cette grâce qui aura toujours le dernier mot, le disaient nos frères il y a fort longtemps. Ils touchent leurs yeux, ils voient. Dans le chapitre 17 de Matthieu encore, lors de la transfiguration, les disciples ont peur quand ils entendent la voix de Dieu le Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai trouvé mon plaisir. » Le Seigneur les touche et les rassure. Ce passage est prenant. Je vais le rappeler en passant pour ne rien lui enlever en le citant. En Matthieu 17, nous lisons le verset 6. Après avoir entendu, celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous et n'ayez point de peur. Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Cette main qui touche les disciples et cette voix qui leur dit « N'ayez point de peur ». Oh, mes amis, puissions-nous souscrire, chacun, quel que soit notre âge, quelles que soient les circonstances particulières qui marquent notre chemin, puissions-nous souscrire à ces trésors de grâce contenue dans le Seigneur. Levez-vous, n'ayez point de peur, mais il les touche. On a dit de ce passage que c'est la main qui rassure. Dans le chapitre 14 de ce même évangile, remarquons aussi un passage. C'est le disciple Pierre. Au verset 29, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria disant, « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit, « Homme, de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la nacelle, le vent tomba. Quand nous portons notre regard sur la personne de notre Sauveur bien-aimé, nous marchons sur les eaux pour reprendre le sens de ce passage. Mais que de fois, chers amis, nous ressemblons aux disciples fiers qui regardent aux vagues et alors ils enfoncent et ils crient au secours. Mais la main forte du Sauveur est là. Jésus étendant la main le prie. Puissions-nous réaliser dans nos épreuves, dans les pourquoi du chemin, ce qu'est cette main forte, toujours prête à nous saisir, à nous ramener à la surface, et comme nous le disons quelquefois chez nous, une main percée, une main qui porte une gravure, mais une main puissante, une main qui rassure, une main forte. Dans le chapitre 22 de Luc, l'oreille de l'esclave du souverain sacrificateur a été emportée par l'épée. Et Jésus guérit cet esclave. Il remet en place cette oreille Et il écrit même que c'était l'oreille droite. La main de Jésus fait cela. Et j'entends encore un cher frère, il y a un bon demi-siècle, qui nous disait, le Seigneur a appris à cet esclave à écouter de la bonne manière. C'était l'oreille droite. La droite faisant penser dans ce passage à ce qui est nouveau. Comme il est écrit, le cœur du juste est à sa droite en Ecclésiaste 10 et au verset 2. Dans le 3 des Actes, Pierre et Jean freinent l'homme paralysé par la main droite. Il est guéri. Alors que dans beaucoup de passages, la droite, vous le savez bien, parle de puissance et dans d'autres de gloire. Assieds-toi à ma droite. Toutes ces expressions qui appellent notre regard à s'arrêter sur celui qui est puissant, sur celui qui est grand, qui est plein de majesté. L'ange avait dit à Marie, il sera grand. C'est un grand prophète, dit-on dans la foule, en Luc 7, après que le fils de la veuve de Naïm soit ressuscité. C'est un grand sacrificateur, selon Hébreux 4. C'est un grand Dieu sauveur, selon Titus 2, et c'est le grand pasteur des brebis. Celui dont la main est toujours prête pour désigner ses bien-aimés. Nous avons cela aussi en Matthieu. Ceux-là sont les miens, ceux qui ont mis leur confiance en moi. Je ne les laisserai point, je ne les abandonnerai point. Ils m'ont coûté si cher. Et puis dans Jean 10, vous le savez, le Seigneur rappelle que personne ne ravira une brebis de sa main. Et il est ajouté encore que personne ne ravira une brebis des mains du Père. J'aimerais que ces passages nous rassurent, nous encouragent, soient comme un nouveau soutien. Rappeler de la part du Seigneur, dans les parcs de Jésus, paissons en assurance, avons-nous chanté ces parcs où il y a nourriture, où il y a les eaux qui coulent, où les ressources sont là, où nos besoins trouvent réponse, quel que soit notre âge, je le répète, quels que soient les obstacles de la route, n'oublions jamais que le Seigneur est là. Hier soir, nous rappelions, je crois, à l'Orient un mot, mais du livre d'Esdras. Esdras, ce scribe qui était lettré et qui travaillait selon la pensée de Dieu, là, au milieu du peuple, il a dit des choses touchantes de ce scribe. Eh bien, c'est lui qui, à maintes reprises, rappelle la main de ce Dieu qui est toujours prête à intervenir pour ceux qui s'attendent à lui. Et par deux fois, il dira même la bonne main de notre Dieu. N'oublions pas, chers amis, cette main qui est étendue sur nous. Encore cet après-midi, nous le chantons quelquefois, tu nous couvres toujours de l'ombre de ta main. Et puis il y a une troisième expression dans Deutéronome 33 que nous avons lu. Il est dit qu'ils se tiennent à tes pieds. Ah, le Seigneur a voulu que Nous ayons nombre de passages dans l'Écriture où il est question d'être assidus. De quoi pourrions-nous nous glorifier, puisque nous avons besoin d'être à ses pieds dans la confession de nos péchés, c'est ce que nous avons dans le 7 de l'Évangile de Luc, par cette pauvre femme qui vient par derrière. Elle va confesser sa misère. Elle va tomber à ses pieds. Dans le chapitre suivant, c'est un chef de synagogue qui est dans la détresse. Lui aussi va tomber sur sa face. Le Seigneur va ressusciter sa fille. Et plus loin, c'est un Samaritain qui guérit de sa lèpre, revient sur ses pas. Dans le chapitre 17 de Luc, lui aussi tombe sur sa face, aux pieds de Jésus. Et cette femme nommée Marie de Béthanie, qui est aux pieds de Jésus, en Luc 10, qui écoute sa parole, et qui est aux pieds de Jésus, quand elle est dans l'épreuve, en Jean 11, quand le deuil a frappé là, dans la famille, cette femme qui, en Jean 12, est aux pieds de Jésus, répandant le parfum de nard pur de grand prix. Oh, il faudrait des méditations, des réunions, pour s'arrêter sur tous ces passages. Nous le comprenons bien. Et Dieu a voulu que, en Apocalypse 4, il soit question de ceux qui tombent sur leur face devant le Créateur, et dans Apocalypse 5, ceux qui tombent sur leur face devant le Dieu Sauveur, qu'il me soit accordé, chers amis, d'être aux pieds de Jésus. Ne sommes-nous pas portés quelquefois à nous glorifier de ceci ou de cela? Nous avons été bien enseignés, des frères se sont penchés sur la parole de Dieu il y a longtemps déjà. Ils nous ont laissé des choses remarquables pour notre instruction, pour notre édification, pour notre encouragement. Ne serions-nous pas portés à nous glorifier? Eh bien, qu'il nous soit accordé d'être aux pieds de Jésus. Tout est grâce, chers amis. Un frère disait, notre christianisme sera vrai, il sera sincère, dans la mesure où souvent nous nous arrêtons aux pieds de la croix, comme aussi devant le tombeau vide, réalisant que Christ est mort pour nos péchés, selon 1 Corinthiens 15, et ressuscité pour notre justification, selon Romains 4, verset 25, aux pieds de Jésus. Et il y a une quatrième expression dans ce passage. Remarquons-la, il est dit, ils reçoivent tes paroles. Ils reçoivent tes paroles. Là aussi, le sujet pourrait nous entretenir longtemps. Réaliser que dans nos mains, nous avons la parole du Seigneur qui demeure éternellement, Pierre le dit, dans son premier chapitre de la première épître, au verset 25, le psalmiste dans le 119, au verset 89, peut dire « Ta parole, elle est établie il y a toujours dans les cieux. » Et que de passage, dans ce psaume de 22, subdivision de 8 versets, que de passage où il est question de la parole. Mais voilà, la parole est dans nos mains, elle est devant nos yeux, elle est devant nos cœurs, elle est devant nos consciences, mais l'important, c'est que nous ayons faim et que nous ayons soif. Ce qui me faisait penser aussi à ce passage en chantant le cantique 63e. Pour être dans ce gras pâturage, pour être nourri de cette précieuse parole, il faut avoir faim, mes amis. Nous nous sommes peut-être habitués au cours des années à tant de privilèges, à tant de grâces. Nous avons été nourris du pain du ciel, bien sûr, abreuvés à cette source d'amour qui jaillit du Saint-Dieu, mais avons-nous encore faim? Avons-nous encore soif? Désirons-nous faire des progrès dans la grâce et la connaissance d'une telle personne? L'apôtre Pierre termine sa seconde épître par ces mots: croissez, et c'est un impératif, dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ils reçoivent tes paroles. Nous nous arrêtons souvent dans les méditations sur ce verbe recevoir. Dans le premier chapitre de Jean, cela vient à la pensée de chacun ici. Il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux dont le cœur s'est ouvert, dont la main s'est étendue pour saisir la sienne, percer les puissances. Les Thessaloniciens, dans le premier chapitre de l'Épître, cela est souligné, avaient reçu la parole, et il y avait pourtant des persécutions, mais avec la joie de l'Esprit-Saint. Ils avaient reçu la parole. Il est même écrit qu'elle avait retenti de chez eux. Si la parole retentissait de chez nous, un frère disait, il n'y aurait plus d'incrédules dans nos villages. Mais en 2 Thessaloniciens 2, il est question alors de ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Après le départ des croyants, Dieu envoie une énergie d'erreur pour que les hommes croient au mensonge. Et Dieu s'explique, permettez-moi de le dire ainsi, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. D'où l'importance, je le répète, de ce verbe recevoir. Joignons les mains, chers amis. Joignons les mains devant notre Dieu, devant le Seigneur, à la pensée que par sa grâce, nos cœurs se sont ouverts pour recevoir sa parole, pour recevoir ce grand salut. Nous nous sommes peut-être habitués à dire et à redire ces choses. Mais j'aimerais que cet après-midi, devant cette nourriture dans les parcs de Jésus et devant ces eaux qui coulent en abondance, que notre désir soit de le connaître mieux, de faire des progrès dans la connaissance d'une telle personne. Il est dit, je crois, dans le Proverbe 4, et au verset 18, que le sentier est juste, comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Ici, le Seigneur nous disait, mais un chrétien se doit d'avancer. C'est pourquoi l'Éternel dit à Josué, déjà, dans le premier chapitre de son livre, et au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. » Il y a donc une énergie de la foi pour avancer. C'est ce que nous rappelions ici, ça fait pas l'année dernière. Premier chapitre de Josué. Et c'est dans le psaume 84 et au verset 7 qu'il est question d'une marche de force en force. Ils reçoivent tes paroles. Et en pensant à ces paroles et à ce que nous avons chanté, encore j'aimerais toucher un passage dans le premier livre des Chroniques, sans prolonger, au chapitre 4. Nous lisons au verset 23 de 1 Chronique 4. C'était les potiers et les gens qui se tenaient dans les plantations et dans les enclos. Ils habitaient là, auprès du roi, pour ses travaux. Et plus loin dans le chapitre, nous lisons au verset 39, ils allaient rentrer de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée pour chercher des pâturages pour leur menu bétail. Et ils trouvèrent un pâturage gras et bon et un pays spacieux et paisible et fertile. Remarquons l'expression « pour chercher ». Et plus loin, « ils trouvèrent ». Et alors, dans le premier verset que nous avons lu, c'était les chrétiens, des gens simples, mais des gens qui se tenaient dans les plantations, dans les enclos. Ils habitaient là, et remarquons ce petit mot-là, auprès du roi pour ses travaux. Oh mes amis, n'avons-nous pas là aussi le cantique 63e indiqué par notre cher frère? Est-ce que notre désir est de nous tenir près du Seigneur pour ses travaux, pour son service, pour ce qu'il attend de nous? Il se tenait là, auprès du roi. Cela nous conduirait à citer beaucoup de passages. Vous le savez bien, Joseph dit déjà à ses frères de rappeler à son père qu'il l'entretiendrait. Mais nous avons ce petit mot près au verset 10 de Genèse 45. Joseph fait dire à son père, tu seras près de moi, et je t'y entretiendrai. Pensons, chers frères et sœurs, à cette proximité, à ce que sont les ressources de celui qui a le désir de se tenir près de Jésus. Pensons à ce disciple qui penchait sa tête sur le sein de Jésus. Et c'est ce disciple-là qui a été choisi pour nous donner l'évangile le plus élevé. Et les trois épîtres que vous savez, et même l'Apocalypse. Quelle grâce quand il y a dans le cœur, chers jeunes amis, présents cet après-midi. Quelle grâce quand il y a dans nos cœurs le bonheur, dans notre vie, ce désir de nous tenir près de Jésus. David disait à Abiathar, près de moi, tu seras bien gardé. Et c'est dans le psaume 145 que je crois que nous avons un verset qui dit « Il se tient près de ceux qui l'invoquent en vérité. » Et il y aurait tant de passages. L'apôtre peut dire en 2 Timothée 4, quand tout sera abandonné, il peut dire là, le Seigneur alors s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Le Seigneur a le défi d'être toujours près de nous, vous le savez bien. Nous lui avons coûté si cher, mais que notre désir alors, en retour, soit d'être auprès de lui, comme il a dit ici des Poitiers, auprès de lui pour ses travaux. En 1 Samuel 21, il y a un verset que je ne pourrais pas citer, mais où il est question de s'occuper des affaires du roi. Comment faire des progrès dans la grâce et la connaissance du Seigneur si nous ne nous penchons pas sur la parole, si nous ne la lisons pas, si nous ne la méditons pas? Les affaires du roi, elles étaient pressantes. Mais j'aimerais que nous retenions bien ce passage de 1 Chronique 4. C'était les Poitiers, ils habitaient là, auprès du roi, pour ses travaux. Et plus loin, ceux qui cherchent un pâturage et qui trouvent un pâturage gras, un pays spacieux et paisible et fertile. Vous avez pensé aussi au psaume 23e, bien sûr. Que même les enfants récitent par cœur, il est mon berger, le mien, je ne manquerai de rien. En Deutéronome 2, l'Éternel rappelle, mais vous n'avez manqué de rien. En Deutéronome 8, vous ne manquerez de rien. Et dans le psaume 34, rien ne manque à ceux qui le craignent. Et en Luc 22, le Seigneur dit aux disciples à leur entrée, « Mais avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Mes amis, qu'il me soit accordé la grâce de paître dans ce gras pâturage et de voir à ses eaux qui coule en abondance. Moïse pouvait dire au peuple, quand la manne est donnée, c'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Et dans le psaume 78, sauf erreur, dans les versets 24 et 25, c'est le blé des cieux, c'est le pain des puissants, dans ce gras pâturage. Jeunes amis, chers amis, souvenons-nous que dans mon âme, il y a le pain des puissants, il y a ce gras pâturage. Le psalmiste pouvait dire dans le 23 déjà cité, tu dresses devant moi une table, en la présence de mes ennemis. De quoi nous parle la table? Si ce n'est de nourriture et de communion, bien sûr. Dans les parcs de Jésus, paissons en assurance du souverain pasteur, du grand pasteur des brebis, selon Hébreux 13, goûtons la grâce inouïe et nous irons de l'avant, mes amis. Avec la paix du cœur, avec la joie profonde du cœur. Alors que des multitudes sont dans l'anxiété, sont dans l'indifférence, sont dans l'incertitude, voire dans la violence, qu'il me soit donné de faire le contraste avec ceux qui n'ont que la terre, alors que le ciel a été ouvert par celui qui nous aide, qui nous porte sur son cœur devant Dieu continuellement, celui qui vient bientôt. Notre Bible ne se ferme pas sans ce rappel, oui, je viens bientôt, amis, prenons courage, bientôt, c'est le mot de la foi, c'est le mot qui fait que nous sommes des attendants, selon la note d'Apocalypse déjà citée, je viens bientôt, réjouissons-nous.